13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Nous vous retrouvons, Franck, depuis un lieu que vous affectionnez particulièrement. Vous nous emmenez aujourd'hui au cœur du château de Versailles pour une visite privée. Bonjour, cher Franck.
Oui, bonjour Julia, bonjour à tous. Ce n'est pas le premier numéro d'Au cœur de l'histoire que nous réalisons ici au château de Versailles, mais je vous avoue que dans mon cœur, c'est toujours un peu une première fois. Cette maison est à l'origine de ma passion pour l'histoire et je n'y mets jamais les pieds sans un pincement au cœur. Voilà bien un monument exceptionnel avec les jardins qui le complètent. Un monument considéré dans le monde entier comme la première vitrine de la France. On peut dire que les arts français à leur apogée ont donné ici le meilleur d'eux-mêmes. C'est l'histoire qui s'est écrite dans cette maison pendant un siècle. Et pendant quel siècle ? Versailles est aujourd'hui un très grand musée de peinture et le plus grand musée d'art décoratif de ce pays. Mais c'est aussi, et c'est d'abord, une grande demeure, la maison des rois de France. Et évidemment, comme il convient dans une grande maison, c'est à la maîtresse de maison de nous recevoir. Bonjour Catherine Pégard.
Bonjour.
Merci de nous accueillir dans ce château de Versailles qui fait rêver les Français et qui fait rêver le monde entier. Vous êtes vous-même, vous présidez aux destinées des lieux depuis un an environ.
Année, oui.
Alors il faut que nous décrivions pour nos auditeurs, c'est tout l'avantage de la radio, c'est de nous laisser le temps et l'opportunité de décrire les lieux où nous sommes. Nous sommes dans la première antichambre de l'appartement du roi qui a servi de salle des gardes, qui donne sur une loggia, qui elle-même, cette loggia est ouverte elle-même sur l'escalier de marbre qui autrefois permettait d'entrer et chez la reine et chez le roi. Juste derrière nous, là-bas, il y a une antichambre où le roi prenait ses repas. Et puis derrière encore, il y a la deuxième antichambre du roi, c'est-à-dire ce salon de l'œil de bœuf qui a donné son nom à toute la chronique de cour. Nous sommes dans une pièce qui est relativement dégarnie, mais ce qu'on peut dire, c'est que depuis de nombreuses années maintenant, une entreprise de remeublement de Versailles a lieu et que ces salles se sont peu à peu remplies. Nous allons y venir tout à l'heure avec quelques-uns des plus beaux exemples de ce remeublement versaillais. Vous avez, vous, à gérer d'abord beaucoup de monde. Combien de personnes travaillent à Versailles ?
6 milliers.
1 millier de personnes. Mm-hmm. Vous êtes la présidente d'un établissement public. Il ne faut pas oublier que depuis 1995...
Nous avons ce statut d'établissement public.
Il y a combien ?
Du château, du musée et du domaine de Versailles.
Il y en a 11, hein, une grosse dizaine en
Exactement.
France de ces établissements publics culturels, en quelque sorte, qui sont autonomes.
Alors ça, pas c'est... tout à fait, Alors, qui expliquez. Ont une grande part d'autonomie, mais qui ont aussi besoin du concours de l'État. Et ô combien, je suis très attachée à dire que la politique culturelle, elle est définie par le gouvernement. Nous avons très besoin du concours de l'État pour nos gros travaux. Nous vivons des moments parfois un petit peu difficiles dans
comme
ces temps de crise,
en ce moment,
comme
oui,
tout le monde.
Sûr, oui.
Et donc, nous, comme tout le monde aussi, nous apportons notre concours dans des circonstances exceptionnelles pour faire des économies au budget de l'État. Et donc, nous différons quelques-uns de ces travaux, mais nous essayons d'avoir la même offre culturelle et de poursuivre la même mission opiniâtre de remeublement de ce château, engagée, comme vous le disiez, depuis des années. Et qui fait que ce château est en vie.
Voilà, c'est une ruche en activité.
Oui, vous n'avez pas, nous ne sommes pas dans la meilleure pièce pour en témoigner.
Non, certes.
Parce que cette pièce, comme vous le disiez, est vide. Donc. Cette salle des gardes du roi sera restaurée. Et effectivement, notre programme de restauration et de remeublement est un programme qui nous tient en haleine constamment, année après année. Et moi, je peux témoigner qu'en une année, j'ai vu ce château changer.
C'est incroyable,
c'est-à-dire
ça
que
va vite.
Le château, on a coutume de dire, quand j'étais petite, ce château m'impressionnait beaucoup, c'était un grand château vide. C'est vrai, quand je suis venue pour la première fois, il y a très très longtemps,
pas
au
si
château
longtemps
de Versailles, eh bien ce château était très vide. Et maintenant, ce château se remeuble petit à petit, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un travail constant de tous les instants, et qu'effectivement, d'un mois à un autre, on voit des pièces changer. Et que grâce au travail de Madame Saul en particulier, directrice du musée du château de Versailles, eh bien ce travail est mené avec constance, pièce après pièce, pour remettre au bon endroit le bon meuble que nous cherchons à travers le monde, et pour cela évidemment en ayant le concours de nos mécènes.
Bonjour Béatrix Saul.
Bonjour.
Puisque Catherine Pégard vous a cité, je suis ravi de vous accueillir. Je ne sais pas qui accueille l'autre, du reste. Alors avec vous, tout à l'heure, nous allons aller nous promener dans quelques-unes des grandes réussites, des restitutions qui viennent d'avoir lieu, notamment dans le salon de Mercure, cœur même du grand appartement et dans le salon des jeux de Louis XVI. Et puis j'ai à ma gauche Roland de l'Épée. Bonjour cher Roland, vous êtes le président de la Société des Amis de Versailles et vous aidez, vous, le château de l'extérieur, si je puis dire, à récupérer un certain nombre d'objets d'art, de meubles, à lancer aussi de grands travaux. Nous allons y venir tout à l'heure puisque vous avez un énorme projet pour une des pièces les plus emblématiques de l'appartement intérieur de la reine. Vous parliez de mécénat, Catherine Pégard. C'est important, les mécènes à Versailles. Ça, c'est fondamental dans votre...
Oui, c'est fondamental. Le mécénat est très important. Nous avons un de nos meilleurs soutiens avec Roland de l'Épée qui représente ici les Amis de Versailles. Les Amis de Versailles, ils sont chers à notre cœur parce que c'est l'histoire de Versailles. Et puis, on a d'autres mécènes que le mécénat a changé au fil du temps. Donc, on a aussi un mécénat d'entreprise qui est important, qui est différent. Puis, on a des mécènes étrangers de plus en plus. Et ça, c'est une grande satisfaction pour moi, c'est de voir que, de la même façon que le château de Versailles est visité par une grande majorité d'étrangers, pour la première fois, les visiteurs du château de Versailles, c'est 75% d'étrangers. Et bien, de la même façon, nous avons des mécènes qui maintenant viennent du monde entier, parce que Versailles, je crois, est l'emblème de la culture française. Et nous, ici, nous le vivons parce que nous voyons arriver du monde entier des gens qui veulent aider Versailles.
Combien de visiteurs à Versailles? Vous nous dites 75% d'étrangers.
6,5 millions de visiteurs par an.
6 millions et demi de visiteurs, plus quelques centaines de milliers qui, grâce à nous aujourd'hui, sont en direct à Versailles dans cette salle des gardes du roi.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Avant la pub, nous apprenions que vous êtes 6 millions et demi de visiteurs chaque année à admirer ce lieu extraordinaire. Nous poursuivons notre visite du château de Versailles avec notre guide, l'excellent Franck Ferrand.
Nous avons mis cette interruption à profit pour nous promener dans le château et gagner ce salon de Mercure. On est en plein cœur de l'enfilade si célèbre du grand appartement à Versailles. Alors, ça tombe bien que nous soyons un lundi parce qu'en temps normal, ici, Béatrix Saul, c'est la foule. Les gens se pressent littéralement, comme d'ailleurs sous l'Ancien Régime, lors des grandes fêtes et des grandes soirées, ce qu'on appelait les soirées d'appartement.
Lors des soirées d'appartement, effectivement, toute la cour était rassemblée pour des jeux. On jouait, c'était le jeu du roi dans le salon de Mercure. Mais pendant la journée aussi, puisque Versailles était ouvert au public, et on venait voir les collections royales qui étaient présentées dans le grand appartement du roi. Et par exemple, dans ce salon de Mercure, on aurait pu voir des œuvres du Titien, du Dominicain, des collections qui aujourd'hui se trouvent au Louvre.
Nous sommes, disons-le, dans une harmonie de rouge ici. C'est écarlate. Quelle est la bonne dénomination?
Nous sommes là avec un damas cramoisi.
Cramoisi.
C'est une symphonie de rouge, effectivement, qui correspond à ce que l'on peut voir d'après les inventaires. Et puis, il y a aussi une harmonie d'or et de rouge. Nous avons procédé aussi à la restauration du plafond.
Somptueux plafond.
Les peintures de Jean-Baptiste de Champagne étaient difficilement lisibles. Elles ont retrouvé leurs couleurs, leurs ors. Et il y a eu aussi reprise de toute la corniche qui a été redorée en plein et où les fleurs de lys ont été restituées. Et c'est très important d'avoir cette harmonie des ors parce que la corniche fait la transition entre les plafonds colorés, le damas rouge, et donc on a retrouvé une harmonie.
Alors dans le tout premier Versailles, ce salon, enfin dans le tout premier Versailles de ce qu'on appelle l'enveloppe neuve, ce salon, ce grand appartement était l'appartement du roi. Il ouvre au nord, sur le parterre du nord, de même que, de façon tout à fait symétrique, l'appartement des reines, enfin l'appartement dit de la reine, ouvre au sud sur le parterre du midi. Ici, à partir de 1682, on décide que c'est l'appartement de la cour, en quelque sorte.
Alors, à partir de 1682, cet appartement devient un appartement de parade qui ne sert pas véritablement. Mais tout de même, ce salon de Mercure était toujours dénommé chambre du lit.
D'ailleurs, nous avons sous les yeux un lit, là, en ce moment.
Et nous avons un lit. Et chambre de parade, chambre du lit, bien que cette pièce n'ait servi pour dormir qu'en trois occasions. En 1685 pour le mariage du duc et de la duchesse de Bourbon. Ensuite, un petit moment pour Louis XIV lorsqu'on a fait la réfection de sa chambre. Et
en
surtout,
attendant que la chambre soit prête, il est venu s'installer là un peu.
Un tout petit peu. Et puis, surtout, 15 jours, lorsque le duc d'Anjou a été nommé roi d'Espagne. Oui. Avant son départ, le roi a mis à sa disposition quelques pièces de ce grand appartement. Et le roi était à ce moment-là tellement content d'avoir deux rois
à Versailles. C'est tout à fait extraordinaire.
Voilà. Alors, c'est le moment le plus extraordinaire de cette pièce. C'est dans le salon de Mercure qu'il y avait les pièces les plus extraordinaires du mobilier d'argent pendant 9 ans, de 1681 à 1689. C'est là qu'on avait une balustrade d'argent qui pesait une tonne. C'est là où il y avait les grandes cassolettes de Balin qui faisaient 1,62 m, des énormes brûle-parfums. Toutes les plus belles pièces du mobilier d'argent avaient été concentrées dans ce salon de Mercure.
Ces pièces de mobilier d'argent que vous aviez évoquées il y a 5 ans maintenant pour l'exposition mobilier d'argent, quand Versailles était meublé d'argent, c'était tout à fait somptueux. Alors ce que nous avons sous les yeux, c'est, on peut dire que c'est une évocation de ce qu'a pu être la pièce au moment où le deuxième petit-fils de Louis XIV devient donc le roi d'Espagne. On a un lit, alors disons-le, le lit, c'est un lit qui date de Louis-Philippe en vérité. Hein.
Alors le lit a été commandé par Louis-Philippe pour la chambre du roi, l'autre chambre, celle qui est au centre du château. C'est un meuble extrêmement précieux, mais dont on ne connaît pas la véritable provenance. En l'absence du lit d'Ancien Régime, hein, qui a disparu, on a estimé que c'était le lit le plus riche,
le plus
monumental, qui pouvait évoquer le lit d'ange, de brocart, bleu et or, aux amours, un meuble absolument extraordinaire, mais qui avait déjà disparu, même avant la Révolution.
Alors, de part et d'autre de ce lit, deux somptueux fauteuils avec ce qu'on appelle des carreaux, c'est-à-dire des coussins qui sont posés à même l'estrade, tout un ensemble de ployants. Alors, il y en a un là, juste en face de nous, qui est dégarni, déhoussé, voilà, et puis tous les autres sont couverts de housse. C'est une évocation, disons-le.
Oui, alors ce pliant a été trouvé au musée d'Autun. C'est sans doute le seul pliant qui vienne du garde-meuble de Louis XIV. Les pliants sont des tabourets hein, avec un piétement en X. C'était, comme leur nom l'indique, des sièges
qui se
pliaient et qui servaient surtout aux armées, mais qui ensuite étaient devenus à Versailles des meubles d'étiquette. Et dans toutes les pièces de Versailles, on avait ce genre de meubles.
Alors vous avez cette pièce, on peut dire, a trouvé une nouvelle jeunesse. Les murs ont été retendus d'une soie absolument somptueuse. Du reste, il y a de grands rideaux aux fenêtres. Tout ça est doublement galonné d'or. C'est très riche. Vous avez réinstallé des torchères. Le but est de rendre l'atmosphère de l'époque, Béatrix Saul.
Le premier but est de faire comprendre la fonction de la pièce. Chambre du lit, chambre de parade. Cette pièce a gardé son nom jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, même si à une époque le lit avait été enlevé parce que finalement il ne servait plus à rien. Et nous avons voulu redonner à cette pièce son statut de chambre de parade comme l'étiquette le voulait. Et c'est ça la difficulté, c'est de faire comprendre, d'avoir une approche qui fasse comprendre la fonction des pièces sans être forcément dans la vérité stricte archéologique, parce que celle-ci arriverait à des incohérences.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et nous sommes aujourd'hui avec Franck, toujours depuis le château de Versailles. Nous vous retrouvons en compagnie de Béatrix Saul, qui est conservateur général du patrimoine, directrice générale du musée des châteaux de Versailles et de Trianon.
Nous sommes toujours en compagnie de Béatrix Saul, qui nous fait visiter ce qu'il y a de plus nouveau dans les collections de Versailles. Alors pour venir jusqu'ici, Béatrix, nous avons parcouru tout l'appartement intérieur du roi. Nous sommes passés par la chambre privée du roi, le cabinet de la pendule, le grand cabinet d'angle qui servait de bureau au roi, et puis son arrière-cabinet. Et là, nous arrivons dans une pièce connue entre toutes, puisque c'est une des premières qui ait été remeublée à Versailles. C'est le cabinet des jeux de Louis XVI, où l'on venait prendre le café après dîner, en fait, en sortant de table de la salle à manger voisine, en vérité.
Oui, c'est un endroit où, juste avant la fin de l'Ancien Régime, on voit s'instaurer une sorte de manière bourgeoise à la cour. Après le repas, On venait ici, dans ce salon des jeux, jouer à toutes sortes de jeux ruineux, souvent. Et là aussi, on prenait le café. Le roi, Louis XVI, d'ailleurs, s'amusait à servir le café dans cette pièce. Alors, comme vous le disiez, ça a été une des pièces qui a été la première l'objet d'un remeublement, puisque les encoignures ont été retrouvées en 1953 et 1956. Donc, c'était des pièces essentielles au remeublement, puisque ce sont les seules pièces d'ébénisterie qui meublaient la pièce. Et puis, les années passant, 26 des 35 chaises qui meublaient ce salon des jeux ont été retrouvées. Les chaises de Boulard, restaurées, redorées, regarnies de leur brocart de farge, réédité par la maison Tassinari, qui travaille beaucoup actuellement pour toutes les restitutions.
On le voit notamment sur les grandes tentures aux fenêtres, qui sont absolument somptueuses.
Alors, tout ce travail a été, dans un premier temps, mené par Gérald van der Kemp et Daniel Meyer.
Il faut souligner, évidemment, ces deux noms. Gérald van der Kemp, qui prend en main le château de Versailles en 1953, justement, à la mort accidentelle de son prédécesseur, et qui va faire un travail considérable pour faire revenir du mobilier à Versailles, et puis Daniel Meyer qui nous a quittés très récemment et auquel il faut rendre hommage, qui a été son disciple immédiat, disons-le.
Oui, c'était son lieutenant tout ce qui était le remeublement. Et là, dernièrement, nous avons considérablement enrichi cet ameublement par d'abord la grande table centrale.
Ah oui, magnifique table ronde.
Selon l'inventaire de 1788, une grande table juponnée de velours galonné d'or. Une table de Brelan qui nous a été offerte par Jacques Garcia, qui travaille beaucoup avec nous au sein du comité de remeublement, oui, pour tout ce travail de remeublement et qui nous aide aussi à
ça touche en quelque
la disposition
sorte,
des pièces, le retombé d'une draperie, etc. Tous les meubles qui sont là sont les bons meubles.
Oui, j'appelle c'est des les meubles authentiques. Meubles, hein.
C'est les bons meubles à la bonne place, c'est-à-dire ceux qui étaient là.
Alors, on a l'impression depuis quelques années maintenant qu'une véritable pluie de meubles et d'objets d'art s'est abattue sur Versailles. C'est une bénédiction. C'est depuis que vous avez pris cette maison en main, Béatrix Saul, c'est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-nous, d'où viennent tous ces meubles?
C'était déjà amorcé. Il y avait des négociations avec le Mobilier National qui avaient déjà été amorcées, mais il est certain que la contribution du Mobilier National, qui nous a apporté une centaine de pièces de mobilier royal, permet de travailler sur la densité du mobilier. Moi, je dis toujours que ça, c'est un élément essentiel.
Oui, parce que quand nous avons, nous, sous les yeux, là, cette pièce qui est maintenant presque entièrement remeublée, avec dans le moindre détail, avec ses objets d'art, avec tout son mobilier, etc., avec évidemment les très beaux paysages de Van Blarenberg sur toutes les boiseries, on a l'impression que c'est normal. Mais encore une fois, n'oublions pas qu'il y a 50 ans, cette pièce était absolument vide, il ne restait plus rien. Donc il a fallu, pièce par pièce, tout reconquérir. Ça, c'est un travail faramineux.
Oui, si on fait le compte, aujourd'hui, on a presque tout. Ce qu'il nous manque, je dirais, j'ai encore deux vases sur la cheminée, j'ai encore deux vases sur la console. Tout ceci fait que là, je dirais, on y est presque.
Oui, oui, à 99,5%. Voilà. Alors, nous étions tout à l'heure dans le grand appartement, nous sommes maintenant chez le roi. Je vous propose d'utiliser l'interruption pour nous rendre en courant chez la reine où se préparent des merveilles.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Franck Ferrand qui nous emmène aujourd'hui au cœur du château de Versailles. Et Franck, vous êtes en quelque sorte nos yeux et nos oreilles aujourd'hui.
Et moi qui si souvent, Julia, m'oppose à la présence de caméras et de webcams dans les émissions de radio, là je vous avoue que je regrette qu'aujourd'hui il n'y ait pas une équipe audiovisuelle, car ce que nous avons sous les yeux est proprement indescriptible. De la perfection chez le roi avec ce cabinet des jeux de Louis XVI, nous passons à une perfection chez la reine. Nous sommes dans le cabinet de Marie-Antoinette, ce qu'on appelle le cabinet doré, Béatrix.
Oui, le cabinet doré. Il était tellement doré qu'il a été appelé cabinet doré dès le XVIIIe siècle. C'était en fait le cabinet intérieur de la reine. Oui. C'est là où elle se tenait avec ses amis et où elle aimait en particulier faire de la musique. Cette pièce a été décorée de boiseries dans un goût néo-grec et elle a été restaurée en 2006 par Frédéric Didier. Et depuis, elle était restée démeublée. Et donc, ça a été aussi un...
Il faut rendre hommage à l'architecte en chef du château, Frédéric Didier, qui, bien sûr, dirige l'ensemble de ces travaux de restauration à chaque fois. C'est une énorme responsabilité, bien sûr.
Et donc, ce travail avait été fait et la pièce était restée démeublée. Et donc, une des premières tâches que l'on a voulu mener à bien, ça a été le remeublement, puisque les sièges étaient en possession de Versailles. Depuis un dépôt par Fontainebleau. Donc on a les bons sièges.
Là, c'est comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a le bon mobilier à la bonne place.
Exactement.
Pour l'essentiel, en
exactement.
Tout cas.
Exactement. Et donc tout ceci a été regarni de velours vert anglais, ainsi que on le sait d'après les fournisseurs, parce que comme vous le savez, il n'y a pas d'inventaire pour,
oui, bien sûr, pour
tout ce qui est le garde-meuble de la reine, parce que c'était un garde-meuble à part, et celui qui s'en chargeait a sans doute pris la précaution de tout brûler pour que ce ne soit pas à charge pour la reine pendant la Révolution. Donc de ce fait, on est très démunis en ce qui concerne les inventaires, mais heureusement, on a les papiers des fournisseurs. Et de là, donc, on sait que le fournisseur avait un velours de soie vert anglais qui est extrêmement délicat.
Un raffinement presque incomparable. Oui.
Galonné à la Bourgogne, c'est-à-dire avec ses larges galons. Et puis, il y a eu aussi tout l'ameublement.
De l'alcôve.
De l'alcôve avec les draperies tombantes et le sofa.
Et donc, sofa qui est donc dans une alcôve en miroir, hein, absolument spectaculaire, qui à l'époque devait être stupéfiant, parce que des miroirs de cette taille et dans cette quantité, c'était quand même pas banal.
Donc là, on était au niveau le plus riche qui pouvait être, puisque Marie-Antoinette voulait toujours avoir des meubles les plus luxueux, les plus au goût du jour. C'était une pièce intime, mais il y avait une pièce encore plus intime qui était le boudoir de la reine.
Alors justement, on va s'y rendre, si vous voulez bien. Quand vous voyez le succès d'une restauration parachevée comme celle-ci, Roland de l'Épée, vous qui présidez la Société des Amis de Versailles, ça vous donne du courage pour entreprendre la restauration d'une autre pièce du même appartement, petit appartement de la reine?
Beaucoup de courage, parce que on sait que la matière première est là et que par conséquent, on peut la restituer. Pour ce faire, la France possède encore de très très bons artisans. Comme vous le disiez, sous la conduite de Frédéric Didier, on va pouvoir entamer une très belle restitution.
Alors nous sommes ici dans ces petits appartements de Marie-Antoinette. Il faut expliquer que ce sont de petites pièces entresolées, hein, assez basses de plafond.
Ah, ce sont des petites pièces qui sont tout à fait différentes des grands appartements. Et on peut imaginer qu'il pouvait y avoir des courtisans qui vivaient toute une vie entière à Versailles et qui ignoraient ces petites pièces.
Oui, parce qu'on n'était admis là que quand on est très proche de la souveraine.
Très proche de la reine, vraiment. Les amis, la famille, mais les amis, enfin une petite coterie, hein, très très étroite. Et d'ailleurs, on comprend bien, ces pièces étaient...
Là, nous passons, parce que nous marchons tout en parlant, nous passons par la bibliothèque et le cadeau de mariage de Louis XVI à son épouse. Hein,
c'est ça. Alors, la bibliothèque, oui, mais surtout le boudoir qui a été donné pour le mariage du dauphin tellement attendu.
Alors, ce boudoir, il a pris le surnom de Méridienne. C'est une toute petite pièce, mais c'est l'avantage de la radio. Avec la télévision, ce serait plus difficile, mais avec la radio, on va pouvoir se rendre dans cette pièce. Elle a besoin de restauration en ce moment ?
Ah, c'est une des pièces, je dirais, qui a le plus besoin de restauration. Aujourd'hui, il y en a deux. Il y a le cabinet intérieur du roi et la méridienne, qui sont vraiment des pièces d'une immense richesse, d'un poids historique considérable et qui, je dirais, font tâche aujourd'hui dans le remeublement et toute la restauration qui est faite. Là, vraiment, c'est une des pièces la plus riche. Et en même temps, dans un état, il faut bien reconnaître, très très miséreux.
Alors on va s'y rendre, si vous voulez, dans ce cabinet de la Méridienne qui est là juste derrière. Nous passons par de petites pièces extrêmement exiguës. Alors à quelle occasion est-ce que Louis XVI a offert à son épouse ce décor tellement raffiné ? On peut sans doute parler d'un des décors les plus raffinés de tout le château de Versailles, en vérité.
Tout à fait.
On est en 1781, qu'est-ce qui se passe ? Il faut
Alors,
raconter
voilà,
ça.
Alors voilà, Marie-Antoinette est enceinte.
Mais oui. Ce n'est pas sa première grossesse.
C'est sa deuxième grossesse et tout le monde est très excité. Son époux, Louis XVI, lui offre cette pièce. Et la reine...
Avec l'espoir qu'elle donne un dauphin à la
avec
France.
Avec l'espoir qu'elle donne un dauphin. Et elle va beaucoup, beaucoup s'en occuper de cette pièce. C'est-à-dire qu'elle veut pouvoir être seule dans cette pièce. Et on a une note très précise dans le garde-meuble de la couronne qui dit « Désirant que le passage de sa chambre à coucher fût commun à sa bibliothèque et à son nouveau cabinet, ne voulant pas que l'on passe par son cabinet pour aller à sa bibliothèque, sa majesté, désirant être seule quand elle le jugera à propos, sans gêner son service et sans être gênée. » Et donc, c'est la
une
pièce...
véritable pièce de retraite.
Exactement. Et c'est la pièce la plus emblématique pour ça, de ces appartements privés, car aujourd'hui, Franck, vous êtes dans l'intimité de la reine Marie-Antoinette.
Et cette intimité de la reine Marie-Antoinette, il s'agit de lui restituer toute son intégrité d'origine. Alors, il y a beaucoup de travail, évidemment. Hein. La pièce est à restaurer entièrement. C'est le grand projet de la Société des Amis de Versailles.
Oui, c'est le grand projet de la Société des Amis de Versailles, qui reprend la suite de ce qu'a fait la Société des Amis de Versailles en restaurant la garde-robe de Louis XVI, en restaurant la pièce des bains de Marie-Antoinette, toutes pièces qui ont été faites par les frères Rousseau pour les boiseries. C'est une pièce qui est très, très particulière parce qu'elle intègre les 10 grands savoir-faire français du XVIIIe siècle.
Alors, ces 10 grands savoir-faire, nous y venons dans un instant. Nous sommes au cœur, dans le sein des seins du petit appartement de Marie-Antoinette à Versailles, dans ce boudoir qu'on appelle la Méridienne.
Et pas une minute à perdre, nous retrouvons Franck depuis l'appartement de la reine à Versailles.
Nous nous promenons dans ce qu'il y a de plus intime, au cœur même de l'appartement de Marie-Antoinette à Versailles, en compagnie de Roland de Lépée, qui est président de cette Société des Amis de Versailles, qui a vu le jour en juin 1907. Et je me rappelle que nous étions là, il y a quelques années, il y a 5 ans déjà maintenant, pour le centenaire de cette Société des Amis de Versailles. Nous nous étions promenés au cœur, au milieu de tous les trésors, de tous les chefs-d'œuvre que votre société a permis, Roland de Lépée, de racheter pour remeubler Versailles. Il y a eu de grands présidents de cette société. Il ne faut quand même pas oublier que ce sont les présidents de la République, Raymond Poincaré et Alexandre Mirand, qui sont à l'origine de ces statuts, qui les ont rédigés, ça ne s'invente tout de même pas. Et puis, il y a eu le comte de Flers, le duc de Brissac, le vicomte de Rohan. Et c'est vous aujourd'hui qui présidez aux destinées de cette société. Alors, vous nous parliez des 10 grands savoir-faire que vous souhaitiez mettre à l'honneur dans cette entreprise de restauration du cabinet de la Méridienne chez Marie-Antoinette. Roland de Lépée.
Tout à fait. Je crois que le premier grand savoir-faire, c'est les boiseries et les sculptures sur bois. Elles sont conçues par Mick, l'architecte de la reine, et par les frères Jean Siméon et Jean-Hugues Rousseau, auteurs quelques années plus tard, du garde-meuble de Louis XVI vers 1788 et de la pièce des bains de Marie-Antoinette. Alors, la qualité de la sculpture est tout à fait étonnante. Elle évoque presque de temps en temps la ciselure du métal.
Ah oui, c'est-à-dire que c'est tellement fin cette sculpture que le bois là a l'air d'être du bronze.
Exactement,
oui.
C'est ça.
Alors il y a d'ailleurs, par ailleurs, un gros travail sur les bronzes, sur les vrais bronzes.
Tout à fait.
En fait, il y avait chez Marie-Antoinette un goût pour le luxe que Béatrix Saul soulignait tout à l'heure et qui est évident. Il y avait une recherche de l'excellence, mais ici, elle a peut-être obtenu ce qui a pu se faire de mieux au XVIIIe siècle dans chacun des corps de métier. Les 10 grands savoir-faire, hein, je les ai là sous les yeux, la dorure, le bronze et la serrurerie, la marbrerie, tout le parquetage, hein, qui est tout à fait extraordinaire, avec des parqueteurs qui ont fait un travail inouï, les miroitiers, puisque l'alcôve entière est tapissée de miroirs. Et puis, bien entendu, n'oublions pas les menuisiers avec l'ébéniste Jacob, notamment, qui fournit l'extraordinaire mobilier. On peut dire que c'est la quintessence même du savoir-faire de tous ces très grands maîtres du XVIIIe siècle.
Exactement. C'est la quintessence des grands savoir-faire français. C'est un peu ce que l'on retrouve au jour d'aujourd'hui dans les maisons de luxe, ce luxe français dont on parle beaucoup. Mais c'est aussi les grands artisans, les maîtres d'art, la formation de la main qui permet aujourd'hui de pouvoir restituer ces décors anciens au passé. D'ailleurs, voyez-vous, cette grande alcôve avec les glaces, c'est Madame de Saint-Imbault qui était propriétaire de Saint-Gobain qui a fourni cela. La chaise qui est ici et le fauteuil qui est un petit peu plus loin sont les expressions même du goût de la reine. Ici, nous sommes dans le troisième ameublement.
Alors, il y aura un gros travail pour les tapissiers également pour les passementiers. Hein, Il ne faut pas oublier les brodeurs.
Parce qu'il se trouve que nous avons encore des échantillons du tissu ancien qui vont permettre de restituer le tissu, la broderie. Pour restituer la broderie complète de la pièce, il s'agit de 2 fauteuils, une chaise et le grand sofa que vous voyez là, il faut compter à peu près 70 000 heures de travail.
Eh oui, c'est considérable.
C'est un travail de Pénélope.
70 000 heures de travail. Quel est le budget d'une restauration globale comme celle-ci? La pièce est très petite, mais elle est tellement raffinée, tellement luxueuse qu'il y a beaucoup de travail. C'est quoi le budget?
Le budget global, c'est 800 000 euros.
Et ces 800 000 euros vont être apportés par la société ?
Ben, nous espérons beaucoup. Nous faisons, grâce à vous ici, un appel au mécénat, à tous les Français qui sont intéressés par leur patrimoine. Tout don à partir de... Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. On peut le faire sur le site www.aminversailles.com. Nous ouvrons à
Amine Versailles au pluriel. Hein,
oui, Amine Versailles au pluriel. Et nous ouvrons le grand livre du mécénat pour tous les gens qui ont contribué et qui veulent y figurer.
Vous savez, en 1953, vous connaissez bien cette histoire, Roland de l'Épée, le secrétaire d'État aux Beaux-Arts de l'époque, André Cornu, a fait un véritable appel aux Français. Il avait choisi la radio pour le faire. Il faut dire qu'en 1953, il n'avait pas tellement le choix. Et il avait lancé un appel à la générosité des Français pour sauver un château de Versailles qui, à l'époque, était globalement en grand danger. Et ça a été une mobilisation nationale tout à fait extraordinaire sur une échelle considérable, puisqu'on a vu les gens faire la quête dans les écoles, à l'armée dans les chambrées, tout le monde y est allé de son petit ou de son gros chèque. Et André Cornu, grâce à cela, a réussi à lancer la grande campagne de sauvegarde de 1953-1954, grâce auquel on peut dire que le château de Versailles a été sauvé. Ce que vous faites, vous, alors c'est à l'échelle d'une des pièces du château pour l'instant, mais en tout cas c'est le même type d'appel. Vous dites aux gens, mobilisez-vous, il y a ici une excellence à sauver.
Exactement. Non seulement une excellence à sauver, mais une excellence à transmettre. Et nous sommes tous présents sur le patrimoine français. Nous devons tous être acteurs du patrimoine français. Et une manière de le sauver et de le transmettre, et j'insiste bien sur la transmission des savoirs, c'est de participer à cette restauration, même pour des sommes modestes. Soyez nombreux, aidez-nous, et vous serez tous des amis de Versailles et des mécènes du boudoir de Marie-Antoinette.
Alors, quand on a vu tout à l'heure l'incroyable réussite de la restauration du cabinet doré de la reine, on n'a plus qu'une envie, c'est de voir cette méridienne, ce petit cabinet à pans coupés avec son alcôve de glace et sa forme en octogone. On a très envie de la voir totalement restaurée, rutilante, brillante. Ça va être un joyau, mais d'une taille sans équivalent dans le monde. Grâce à vous, Roland de l'Épée, et grâce à la Société des Amis de Versailles, à la mobilisation de tous ceux qui vont le vouloir, on verra renaître ce très bel endroit. Merci de votre belle initiative.
Et nous vous retrouvons, Franck, pour quelques minutes encore depuis Versailles.
Mais je ne sais pas si ça s'entend, Julia, mais nous nous sommes réinstallés dans cette salle des gardes de l'appartement du roi. Vous savez que les appartements du roi, de la reine, des principaux membres de la Maison de France étaient composés d'une salle des gardes, de deux antichambres, d'une chambre, d'un cabinet, et puis derrière de tout un ensemble de petites pièces qui étaient le deuxième appartement, l'appartement privé en quelque sorte. Cette architecture classique de l'appartement princier, elle est très représentée ici à Versailles, même si au fil de notre pérégrination, nous n'avons pas eu systématiquement l'occasion de vous réexpliquer dans quel cadre et dans quel contexte venaient les pièces que nous avons, si je puis dire, visitées ensemble. Alors, Béatrix Saul, c'est quand même assez extraordinaire ce qui s'est passé depuis quelques années, puisque quand on arrive à Versailles depuis Paris, notamment quand on arrive par l'avenue de Paris, là c'est encore plus spectaculaire, on voit maintenant un château qui est très doré, qui est extrêmement rutilant par rapport à ce qu'il a pu être au 19e et au 20e siècle.
Oui, mais cela correspond plus à ce que Louis XIV avait voulu, puisque Louis XIV avait voulu la plus belle maison, lui était le premier dans son royaume, il voulait avoir la plus belle maison. Et donc c'était les ors, c'était les marbres, c'était les couleurs. Et donc avec cette redorure des toits, la réinstallation de la grille de la cour royale, c'est vraiment Versailles tel que Louis XIV l'avait voulu, qui est restitué.
Et cette grille, elle va permettre très bientôt une toute autre organisation des visites. C'est-à-dire qu'on a plus maintenant, pour l'instant, il y a une sorte de grand praticable qui est encore en haut de la cour d'honneur, qui va bientôt disparaître.
Il va bientôt disparaître, puisque tout l'accueil qui est... tous les équipements qui sont à l'intérieur vont être dans l'aile vieille. Et donc on va retrouver l'état ancien de la grille avec les deux pavillons. Et la restitution de cette grille était très importante parce qu'elle permet de comprendre ce qui était les extérieurs du château et que le château commençait à la deuxième grille, le logis du roi commençait à la deuxième grille.
C'est toute l'intelligence de la maison hein, qui apparaît comme ça très clairement en fait.
Et cela permet aussi de parler d'architecture parce que le public auparavant n'avait qu'une hâte, c'était d'entrer à l'intérieur, il ne regardait pas les façades. Aujourd'hui, lorsqu'il est dans la cour, il est déjà entré et donc a le loisir de s'intéresser à l'architecture, ce qui est un élément important de la visite.
Il a un véritable spectacle sous les yeux. Ce qui est très beau aussi, c'est de venir le soir et de voir tout ça illuminé, c'est littéralement féerique. Alors, pour faire venir les Français, parce que tout à l'heure, Catherine Pégard, pour commencer cette émission, nous disait que 75% des visiteurs étaient des étrangers. Pour faire venir les Français, il y a un moyen très efficace, ce sont les expositions dont vous vous êtes faites en ce qui vous concerne, la reine, disons-le.
Les expositions, c'est la manière de parler de sujets qui souvent ne sont pas illustrés. Par exemple, lorsqu'on avait fait l'exposition sur les tables royales, sur le mobilier d'argent. Aujourd'hui, avec Versailles et l'Antique, ce sont les grands antiques du Louvre qui reviennent. Et ça, ce sont les collections royales qui ne sont plus aussi bien représentées qu'elles pouvaient l'être à l'époque et qui reviennent à Versailles. Et c'est quelque chose de considérable.
Est-ce que vous avez des projets d'exposition que vous pourriez révéler aux auditeurs d'Europe 1?
On en a tellement que je ne sais pas si je vais les énumérer.
On a l'année entière, l'année le nôtre. On a l'année. Qui commence en 2013.
400 ans, oui. Évidemment, ça se fête, ça.
Donc ce sera l'occasion de redécouvrir ce maître qui est bien au-delà du jardinier qui ratille, qui est vraiment un homme qui aime les arts, qui est à un niveau social que l'on n'imagine pas.
C'était un très grand collectionneur le nôtre, c'est vrai.
Très grand collectionneur, absolument. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on a besoin encore une fois du Louvre pour cette exposition avec une collaboration exceptionnelle. Et puis dans les autres projets, eh bien 1715, la mort de Louis XIV.
Oui, bientôt. Ça, ce sera après la célébration de 1914, oui. Dont on va beaucoup entendre parler, je pense. Mais en 15, on aura effectivement le tricentenaire de la mort de Louis XIV. Des projets de restauration aussi, avec le plafond du Salon de l'Abondance, par exemple.
Le plafond du Salon de l'Abondance, qui va s'achever très prochainement, en mars. Et puis, on enclenchera, sans discontinuer, avec la restauration de la salle des gardes de la Reine. Celle-ci soumise à l'obtention d'un mécénat, mais...
Touchons du bois.
Je ne m'interdis aucun projet. Et justement, je dis toujours, ce sont les projets qui font naître les mécénats. On est dans cette dynamique.
On attend beaucoup, Roland de l'Épée, des mécènes et de ceux qui les mobilisent, hein, vous avez vu.
Parfait. Hein. Et vous savez que nous les mobilisons sur plusieurs pays, puisque nous sommes très proches de nos amis américains.
Bien sûr.
Les American Friends de Versailles. Et nous avons créé en 2010 les Amis Européens de Versailles.
Vous avez le projet, vous, ça, c'est assez inédit pour la Société des Amis de Versailles, qui pendant très longtemps a été un cénacle qui n'a jamais été légalement fermé, mais enfin qui quand même concernait une société très choisie, presque cooptée. Vous êtes en train d'ouvrir tout ça, vous voulez des milliers d'adhérents maintenant.
Tout à fait, nous avons supprimé le parrainage et nous voulons qu'un plus grand nombre s'approprie le patrimoine, leur patrimoine. Et pour cela, il est tout à fait facile d'accéder. Nous avons un site qui s'appelle www.habitversailles.com sur lequel nous voyons toutes les opérations de mécénat en cours qui sont variées. C'est vrai que nous sommes tous dingues de cet endroit, que nous aimons beaucoup, nous sommes tous des passionnés et que notre vie, c'est d'aider à la réussite des projets de l'établissement public et de ceux de chacun.
Catherine Pégard, 2013, année le nôtre, 2015, année Louis XIV, ce sont de grands rendez-vous qui attendent les Versaillais et les amoureux de Versailles.
C'est une très grande chance d'avoir des grandes dates à fêter. Et pour revenir à l'année 2013, on a voulu que cette année soit consacrée à le nôtre dans toutes les saisons. Et c'est pourquoi, à côté de cette grande exposition qui révélera la personnalité d'André Lenôtre, nous aurons toute l'année des tas de manifestations dans les jardins. On peut citer par exemple le début des travaux du bassin de la Tonne, c'est très important, nous pouvons refaire ce bassin
pour les amoureux
de la Tonne,
de Versailles, parce que,
qui était dans un état très critique, et là aussi grâce à un très important mécénat d'une fondation philanthropique suisse, eh bien, nous allons commencer les travaux du bassin de la Tonne. Je crois que c'est un hommage à le nôtre, un hommage lui rendre, que travailler dans ces jardins. Et puis, je peux aussi vous citer l'exposition d'art contemporain qui, cette
Alors
année, sera dans les jardins aussi, puisque nous recevons Giuseppe Pennon. Et que Giuseppe Pennon aime tellement les arbres et tellement Versailles qu'il a travaillé sur un arbre foudroyé pendant la grande tempête de 1999.
Travail tout à fait spectaculaire, il faut le dire.
Tellement spectaculaire que malheureusement, cet arbre-là, pour l'instant, nous ne lui trouvons pas de place à Versailles, oui, puisque nous ne pouvons pas le faire entrer dans le château.
Vos devanciers, et notamment Jean-Jacques Ayagon, évidemment, avaient fait entrer à toute force l'art contemporain dans Versailles. Vous trouvez que c'est sa place, vous, Catherine Pégard ?
En tous les cas, je crois que l'art contemporain a pris sa place. Peut-être que quelquefois, il faut forcer un peu les choses pour qu'elles prennent leur place. L'hommage que rendra Pennon à Le Nôtre, à sa façon, c'est aussi une manière de mettre en relation et en résonance le passé et le présent. Et c'est ainsi que je conçois l'art contemporain à Versailles.
Merci infiniment, Catherine Pégard, de nous avoir reçus dans cette magnifique maison que vous présidez avec une maestria qui fait oublier que vous n'êtes ici que depuis un an.
Vous êtes trop aimable.
Bonjour Elena.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors, comme chaque jour, on s'occupe de vous avec les experts européens. Et aujourd'hui, on va vous concocter vos décos et vos cadeaux faits maison. On se retrouve dans un instant. À tout de suite.
Eh bien, merci Elena. Et nous nous retrouvons demain, Julia.
Avec grand plaisir, Franck, forcément, sur Europe 1.
La hotte de Noël Europe 1.
Mais oui, un grand bravo à Marie-Claire Sanmeangeois qui habite à Brest dans le Finistère, car elle remporte un séjour au soleil pour deux personnes à l'hôtel Golf Maduston à Saint-Cyprien en formule demi-pension avec accès illimité au golf 18 trous. Voilà, voilà. Bravo à vous.